Pluriel Gay, une émission présentée par Gérald.
Eh bien, bonsoir à tous et à toutes, à tous les auditeurs et les, toutes les auditrices, pour une nouvelle émission de Pluriel Gay, en compagnie de ma Lolo, qui a toujours des problèmes.
Bonsoir.
Qui a toujours des problèmes de casque.
Voilà, j'abandonne le casque.
C'est récurrent.
Le casque, c'est fini pour moi.
et c'est fini de casquer, donc.
Exactement.
Et du coup, Bernardo qui sera aux manettes.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
Vas-y, mon petit Bernard, parle, je t'entends très bien, moi, par contre.
Je disais bonsoir à tout le monde, là, à notre invité.
Notre invité qui n'est pas un inconnu.
Exactement.
C'est un invité de prestige.
Un invité.
Voilà, il se décrit lui-même comme invité de prestige. Voilà. C'est génial.
Donc, sur sa modestie habituelle.
Et bienvenue à notre visiteur.
Donc, c'est notre chroniqueur cinéma, évidemment, favori et unique. Unique et préféré, on va dire.
Oui.
C'est Yvan Mitifio, directeur artistique du Festival Écran Mix. Et ça tombe bien.
Bravo parce que... J'ai remarqué Diva plus Yvan, ça fait Divan. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
Bonsoir. Bonsoir, patronne.
Bonsoir, Yvan.
Bonsoir, Lolo. Bonsoir, Nana.
Bonsoir.
Bonsoir, mesdames. Bonsoir, mesdemoiselles. Bonsoir, messieurs. Non, c'est pas ça. Donc, du coup, le Festival Écran Mix, dont tu es le directeur artistique, qui est désormais le grand événement cinématographique du printemps à Lyon. Le mois prochain, va reprendre du service.
Oui, c'est dans un mois exactement.
Voilà, dans un mois. Et en fait, ça sera la cinquième édition, c'est ça ?
Cinquième édition.
Voilà, donc l'âge de maturité, comment on pourrait dire ?
Eh bien, c'est la consécration.
Voilà, consécration. Mais de toute façon, on fera quelque chose de spécifique à Écran Mix, parce que tu n'es pas là que pour Écran Mix ce soir. Tu es là en tant que chroniqueur cinéma. On va parler de plusieurs films qui valaient la peine d'être éclairés, d'avoir ton éclairage. Donc, toi, le spécialiste du cinéma. Et puis, il se trouve aussi que dans Hétéroclite, alors la semaine prochaine, normalement, on devait avoir Romain ce soir, mais ce soir, il n'est pas là.
Non,
ça a été décalé. Mais nous avons Lolo qui, comme tout le monde le sait, écrit dans Hétéroclite, puisque tout le monde se précipite sur les articles de Lolo.
Bien sûr.
Voilà. Et en l'occurrence, tu as écrit un article ce mois-ci dans Hétéroclite qui vient de paraître, donc sur le cinéma. Ça tombe bien. Sur le cinéma lesbien.
Oui.
L'article s'intitule « Réalisatrice lesbienne recherche financement ». Et on y parle de crowdfunding.
C'est ça.
Pourrais-tu nous en dire plus, sans tout dévoiler, pour laisser aux futurs lecteurs la surprise
un
de découvrir l'intégralité de l'article.
Je pense. Oui, en fait, ça fait plusieurs années. Sur le net, on voit des campagnes de crowdfunding donc, qui surgissent un peu partout. Ça ne concerne pas que le cinéma lesbien, ça concerne beaucoup de choses.
Mais le cinéma lesbien est
particulièrement touché. Alors, j'allais employer le mot problème.
Oui, parce que comment se fait-ce justement que le cinéma lesbien a besoin du crowdfunding ?
Apparemment.
Parce que c'est un truc de gonzesse et que personne ne veut faire confiance aux gonzesses.
C'est un peu ça. Mais surtout, personne ne veut faire confiance aux lesbiennes.
Ouais.
C'est plus qu'un problème de gonzesse.
Voilà, double pénalité. Donc.
Souvent, les réalisatrices qui cherchent des financements, des producteurs pour monter leur projet de film, de long métrage ou même de court métrage, enfin, là, dans ce cas-là, c'est plus des projets de long métrage, elles se heurtent déjà aux préjugés. Des producteurs qui n'ont pas un pied dans le milieu, voilà, faut le dire franchement, qui sont un peu frileux, qui veulent pas montrer pour tout public, des films tout public, des filles, des femmes qui s'embrassent, qui vivent ensemble ou qui ont des relations sexuelles. Après aussi, qui restent un peu dans les choses, un peu les images mainstream, en fait, qu'on veut montrer à tout le monde, quoi, pas forcément. Donc qui restent forcément sur des préjugés qui passent bien pour le reste de la population, mais qui correspondent pas à la réalité que connaissent les lesbiennes tous les jours. Donc du coup, il y en a deux, trois qui sont retroussés les manches, dont je parle du témoignage un peu de Anna Margarita Albello, donc qu'on avait rencontrée, qui était venue l'année dernière au Festival Écran Mixte, justement, qui a fait son film « Qui a peur de Vagina Wolf » et qui était passée par une campagne de crowdfunding parce qu'elle avait rencontré ces difficultés-là, elle n'avait pas trouvé de financement. Et donc, elle avait fait un appel aux internautes pour récolter de l'argent. Et puis, l'argent ne fait pas tout, même si les internautes l'ont beaucoup aidé et aident en général beaucoup les réalisateurs et les réalisatrices à faire leurs films. Après, c'est beaucoup d'huile de coude. Donc c'est aussi pas mal de bénévoles, des proches à elle, des amis, de la famille qui l'ont aidée, qui l'ont donné un coup de main. Et c'est elle aussi, je dis dans l'article, vraiment, elle a donné de son corps vraiment pour réussir à monter son projet. Elle a fait une bonne partie de la pub toute seule, entre guillemets, enfin avec d'autres gens, dans la rue, dans les festivals LGBT, les festivals lesbiens. Alors, en règle générale... fagoté de son célèbre costume le vagin, donc elle enfile comme ça avec sa tête au milieu. Donc,
la tête à la place du clitoris.
Voilà, la tête à la place du clitoris, bien sûr. Et donc, du coup, à faire sa promo elle-même, à distribuer des flyers, à parler elle-même de son projet, enfin vraiment aller jusqu'au bout de la chose pour réaliser son projet. Alors, le crowdfunding, c'est un problème puisque ça montre que les lesbiennes réalisatrices ont beaucoup de mal à réunir des fonds pour aller au bout de leur projet. Et je trouve que c'est un mal pour un bien, parce que d'un autre côté, finalement, elles restent assez libres de ce qu'elles veulent, quoi. Elles n'ont pas la pression des majors sur le dos en disant « mais ça, faudrait modifier parce que ça ne va pas passer. Ça, c'est trop ci. Ça, c'est pas assez. La fille, elle n'est pas assez comme ça. Elle n'est pas assez bonasse. Elle est trop blonde. » Enfin, voilà, genre de choses. Ouais. Finalement, même si c'est beaucoup de tracas et de stress, finalement, moi, je trouve qu'elles sont assez libres, ouais, au final, de faire ce qu'elles veulent, quoi. Ouais. Anna Margherita Albello, elle a fait vraiment le film, enfin, on va dire à 90% le film qu'elle voulait et qu'elle avait en tête. Donc, dans un sens, ça reste quand même... Et un film, un bon film... Voilà, c'est ça aussi qu'il faut dire. Avec très peu de moyens et de l'huile de coude, un bon film, drôle, intelligent, très bien mis en scène, avec des belles images et des actrices au top.
Et voilà. C'est que maintenant, elle travaille à Sony, elle a trouvé une très Sony.
Elle a, depuis quelques jours, elle a signé un contrat assistante scénariste chez Fox.
Ah, c'est la classe. Hein.
C'est énorme. Voilà.
Et du coup, justement, le cinéma lesbien paraît toujours un peu le parent pauvre, finalement, du cinéma LGBT.
Je voulais juste ajouter, ouais, parce que du coup, il y a le cas de Anna Margherita Albello, parce que moi, personnellement, grâce à Yvan, d'ailleurs, c'est l'exemple que je connais le mieux, parce qu'elle était venue à Écran Mix, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais il y a des réalisatrices, vraiment, comme je parle de Nicole Cohn, qui est une des pionnières du cinéma lesbien, qui, même elle, aujourd'hui, ne peut pas avoir d'argent de producteurs ou de majors, et que du coup, elle aussi, elle passe par le crowdfunding pour réaliser ses films.
Ah ben, on n'est jamais mieux servi que par soi-même.
Non, mais exactement, mais c'est un peu ça aussi. Hein.
Et du coup, justement, le festival Écran Mixte essaye de compenser un petit peu cet aspect un peu, je dirais, laissé pour compte du cinéma lesbien. Il y a quand même du cinéma lesbien... arrive à être relativement bien représenté.
C'est le problème de tout fait. C'est le problème des créateurs LGBT. Hein. Il y a un problème de visibilité, il y a un problème de crédibilité. Toujours. Je trouve ça formidable que tu aies parlé de ça dans Hétéroclite, qui sort aujourd'hui. Je sais pas si on l'a dit. Oui. Parce que nous, on est confrontés à ça tout le temps quand on programme. La plupart des documentaires et des films lesbiens qu'on passe sont réalisés par crowdfunding, par des filles, notamment deux, il y en a plusieurs, notamment l'année dernière on avait ouvert le festival avec I Am Divine, documentaire sur Divine, qui était produit comme ça aussi, même sur Divine, vous voyez.
Un excellent documentaire du reste.
Qui était produit par crowdfunding. Et cette année on va passer des documentaires absolument formidables, notamment un documentaire sur la créatrice des Riot Girls, un documentaire qui s'appelle The Punk Singer sur Kathleen Anna, qui a été produit comme ça. Et aussi deux documentaires sur DJ Sextoy, la première femme DJ, je crois même mondiale, qui a donné une visibilité lesbienne absolument extraordinaire à travers le monde. Et ce sont aussi encore des films qui ont été produits comme ça. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et effectivement, nous, en tant que festival, on essaye de rétablir une certaine égalité qui n'existe pas ailleurs. Voilà. On essaie de donner aussi de la visibilité à des films qui ne trouvent pas de visibilité dans les réseaux de distribution traditionnels.
Oui.
C'est notre rôle aussi de rétablir. Mais c'est vrai que, en tant que programmateur, on a toujours beaucoup de mal à trouver des films réalisés par des femmes. Ou alors, si c'est pas Céline Sciamma, il faut attendre 3 ans qu'elle... Sinon, ce sont des films effectivement autoproduits par crowdfunding. Voilà.
Alors, le hasard du calendrier...
Je disais à la fin de l'article, excuse-moi Gérald, je te coupe, Céline Sciamma, je le mets à la fin de mon article, est la seule à ce jour lesbiennes qui réalisent des films qui traitent de l'homosexualité, de la transidentité ou du lesbianisme, est la seule réalisatrice qui arrive à avoir un soutien et un financement de major, on va dire, quoi. Voilà, ah, c'est la seule.
Elle est reconnue, en fait.
C'est la seule.
Par la profession. Elle est reconnue aussi parce qu'elle sort de, elle sort d'un réseau de traditionnel du cinéma aussi. Elle sort de l'école de cinéma.
La FEMIS.
Voilà. Mais il y a Virginie Despentes aussi qui fait une très bonne tribune là aujourd'hui, je crois, je sais plus dans quel magazine, journal dans lequel elle parle de ça aussi précisément, de la place des femmes réalisatrices dans le cinéma français aujourd'hui, qui est quasi inexistant en tant que réalisatrice. Oui.
Et le hasard du calendrier fait que la journée mondiale de la femme.
Des femmes. Journée internationale des droits des femmes.
Et voilà, c'est mieux d'ailleurs, comme ça. Dit comme ça, c'est mieux, effectivement. Tombe, donc c'est le 8 mars, c'est en plein milieu du festival Écran Mixte, comme toutes les années. Et c'est ce jour-là que vous choisissez souvent pour avoir une perspective lesbienne et féministe dans le festival.
Cette année, c'est un dimanche, donc on a fait cette programmation plutôt féministe le samedi, la veille, et notamment avec les bibliothèques. Et on passe un documentaire formidable qui s'appelle No Gravity, qui parle de la place des femmes dans le milieu scientifique. Et donc c'est un film de Sylvia Casalino, qui elle a fait vraiment des études pour être cosmonaute, et ils l'ont jamais envoyée dans l'espace, justement parce que c'est une femme. Ouais. Elle a fait un film qui s'appelle No Gravity.
Ouais.
C'est vachement bien, ça sera à la bibliothèque du premier. Et puis aussi un documentaire sur le football lesbien, qui s'appelle Team Spirit, produit par l'association Les Dégommeuses, association donc de filles qui font du football. Elles seront là aussi pour discuter de ça, de la place des filles dans le sport.
Les Dégommeuses, d'ailleurs, qui ont une actualité triste, puisqu'elles ont été victimes d'un acte lesbophobe week-end, lors d'un entraînement, à la fin d'un entraînement.
Par un entraîneur d'une autre équipe.
Voilà.
Là, c'est ça.
Un entraîneur de jeunes, de cadets, qui réclamait le terrain, et elles se sont fait insulter copieusement, vulgairement.
C'est charmant. En tout cas, voilà, les Dégommeuses seront là aussi à Lyon dans le cadre du 8 mars.
D'accord. Alors, en tout cas, on espère que grâce au crowdfunding, on aura plus de films, de filles et de lesbiennes. Voilà, on attend que ça.
Mais c'est aussi une solidarité. Je voudrais faire juste une petite parenthèse. Vous savez qu'en ce moment, il y a le Lavoir Public qui a lancé aussi une opération de crowdfunding, parce que rien n'est acquis. On parlait tout à l'heure d'hétéroclites, que ce soit hétéroclites, que ce soit Lavoir Public ou même Écran Mixte, ils font un peu figure d'exception, moi je trouve, en France, mais rien n'est acquis, tout est fragilisé, et il faut se serrer les coudes, et quand il y a des opérations de crowdfunding, il faut vraiment y aller, quoi.
Très bien. Alors justement, c'est à travers le crowdfunding que notamment un livre est paru récemment, dont j'ai déjà eu l'occasion de parler, c'est « Les années guépiers », paru aux éditions des Ailes sur un tracteur. Et Thomas Dupuis, qui en est l'auteur, nous avait réservé des chroniques qui ont été interrompues quelque temps parce que son emploi du temps ne lui permettait plus de les enregistrer. Mais là, on va pouvoir passer la chronique de l'année 1983. Ce que je veux dire, c'est qu'on reprend, le fil des chroniques. La dernière année, c'était 82, l'année de ma naissance. Et donc, 1983 suit 82 l'année.
T'as inversé, voilà.
Peut-être né en 83, d'ailleurs, je ne sais plus. Mais je n'ai plus d'ailleurs la date exacte à laquelle je suis né, ni même l'année, d'ailleurs. Donc du coup, on va écouter Thomas Dupuis pour l'année 1983, puis après nous reviendrons ici dans les j'aime bien dire les studios. Les studios, ça fait...
Les studios de Radio France. Les
studios de Paramount. Non, en fait, avec Yvan et puis ma petite Lolo, Bernardo, Manette, lance-nous le son de Thomas enregistré ce week-end à Paris. Paris City.
Nous sommes de retour donc avec Thomas Dupuis qui, comme nous le savons, a publié un livre aux éditions des Ailes sur un tracteur, Les années guépiers. Les années guépiers qui retracent donc les 30 ans d'existence de ce mythique journal. Bonsoir, Thomas.
Bonsoir.
On était à l'année 1983.
Oui.
L'année 1983 qui est une année un peu, comment on pourrait dire, charnière, non, un petit peu dans la vie associative.
Non, pas encore. En fait, pour moi, l'année 1983... C'est avant tout la dernière étape, on dira, de l'élection de Mitterrand, avec un système qui se met en place et qui, du coup, on arrive à la fin d'une époque. avec la mise en place de certaines choses, mais en même temps un commencement d'essoufflement de la vie associative. Alors, on a quand même en 1983 la naissance de notamment deux associations qui sont toujours en place, qui sont Homosexualité et Socialisme, HES, donc, qui a été fondée en 83, ainsi que des gays retraités, alors qui en 83 naissent sous la forme seulement d'un groupe au sein du QAR, pour les gens du troisième âge, hommes et femmes, et qui se constituera un peu plus tard en association, une association qui est toujours active aujourd'hui, qui théoriquement est mixte, même s'il y a surtout des hommes, voilà, et qui vit toujours. Le QAR, hein, je le rappelle, c'était la grande association fédération nationale qui regroupait tout le mouvement, on ne disait pas LGBT à l'époque, c'était avant tout gay et un peu lesbien, qui avait été créé en 79, donc c'était le comité d'urgence anti-répression homosexuelle, mais c'était vraiment la grande fédération associative gay en France. On notera au niveau de la naissance des associations, une association qui a perduré jusqu'aux années 90, qui est le GAGE, Groupement Acrien des Grandes Écoles. C'est la première fois qu'en fait il y a une association étudiante, on dira, qui se constitue sur des thématiques homosexuelles. Mais on est donc dans le post-1981, où en fait les militants s'essoufflent un peu, dans le sens où en 82, il y a eu la sortie des articles sur l'homosexualité du code pénal. On a l'impression qu'il y a eu beaucoup d'avancées, etc. Et du coup, la mobilisation, on va dire, militante baisse petit à petit.
En fait, l'année 1983, c'est donc une année charnière aussi dans le domaine politique par rapport à la présidence de François Mitterrand. Et est-ce qu'on peut dire que c'est aussi une rupture avec la vie associative LGBT dans sa forme la plus politique, dirais-je ? Et la plus militante.
Je crois que déjà, effectivement, en 83, c'est un peu la fin des illusions, au niveau politique global, hein, c'est un peu la fin des illusions de l'arrivée de la gauche au pouvoir. Donc ça va être petit à petit le tournant de la rigueur, voilà, et une nouvelle forme de réalisme qui fait que du coup le contrat passé entre, on va dire, la gauche socialiste et les Français n'est plus vu de la même façon. Donc je pense qu'effectivement au niveau associatif ça se traduit aussi, mais je pense que surtout au niveau de la cause homosexuelle, le problème de la militance vient du fait que on a enfin acquis des droits, donc maintenant on va en profiter, et voilà, on se sent moins mobilisé pour conquérir des droits, parce que à l'époque les revendications sur le mariage ou l'adoption telles qu'on les a connues ces dernières années ne sont pas du tout dans les intentions de la communauté. Donc on arrive enfin à bien vivre sans être fiché, sans être ceci, sans être cela. Donc on est après dans une phase où on veut en profiter. Ça correspond aussi à Paris avec le début vraiment de l'explosion du Marais. Ce qui a commencé véritablement à la fin des années 70, mais qui, les établissements se multiplient. Donc voilà, la vie gay passe plus maintenant, de plus en plus, par les commerces plutôt que par le monde militant, où on a l'impression que les droits sont acquis.
Alors, on a évoqué justement le sida dans les chroniques précédentes, l'apparition des premiers articles du sida dans le Guépier. Le sida, justement, sera peut-être pas encore en 1983, mais sera aussi un point de rupture avec le gouvernement socialiste, je dirais, les associations, puisque par la suite, on a souvent reproché au gouvernement, on dit gouvernement, comme d'autres gouvernements d'ailleurs à travers le monde, de ne pas avoir pris suffisamment à temps l'ampleur du phénomène sida. Et ça, c'est un reproche qu'on a fait au gouvernement socialiste. Alors, pendant les années sida.
Oui, je voudrais pas prendre la défense d'un gouvernement socialiste plutôt qu'un autre. Je pense quand même que quelques gouvernements qui étaient aux commandes à ce moment-là auraient été aussi complètement démunis. Ou il faut voir qu'à l'époque, en France par exemple, c'était juste une trentaine ou une quarantaine de cas de morts par an. C'était encore relativement faible. Et c'était en plus une épidémie dont on ne connaissait rien. Le virus n'était pas encore détecté. On n'avait pas la possibilité de faire des dépistages. On était totalement dans le flou. Et pour, au final, relativement peu de cas. On a eu ça dans tous les pays. Alors, chez nous, en fait, je pense que ça... L'épidémie, la mobilisation s'est d'abord faite aux États-Unis plutôt que chez nous parce qu'ils avaient beaucoup plus de cas. Et chez nous, ça a été ralenti du fait que d'abord, il a fallu que les cas arrivent. Et puis aussi du fait de cette... le fait d'avoir reçu tous ses droits après l'élection de Mitterrand en 81 fait que la communauté n'a pas eu envie de voir qu'il y avait un souci qui se propageait à l'horizon. Alors, en 83, a priori, le sida reste relativement peu présent dans la sphère, en tout cas au travers du guépier, on en parle relativement peu. On a un premier mort célèbre qui est Klaus Nomi, le chanteur Klaus Nomi, c'est la première victime un peu connue voilà, qu'on a dans l'actualité. Mais le sida est très peu présent. On verra, pour moi, le retournement se fera vraiment en 84, où là, il y aura de vrais débats, donc on en parlera une prochaine fois, de vrais débats, et petit à petit, ce sera lent, mais bon, ça arrivera, une prise de conscience, déjà du monde associatif. Ce qu'il faut voir, c'est que le monde associatif, déjà en 83, n'était pas du tout mobilisé sur la question du sida. Alors, demander à ce qu'un gouvernement le soit à la place même des acteurs touchés, voilà, je pense que tout gouvernement qui y ait eu aurait été un peu dans la même situation.
Mais je veux dire, dans la continuité, après, dans les années qui ont suivi, on a beaucoup reproché justement à ce gouvernement, peut-être, de ne pas avoir pris la mesure.
Il n'y a pas eu du tout d'anticipation. Il faudra effectivement attendre l'arrivée de Michel Barzac au ministère de la Santé pour avoir un grand plan sida. On en reparlera, donc ça c'est les années 86-87. Avant, il n'y a quasiment aucune mesure de prise.
Donc le sida est peu présent dans le journal Guépier en 1983 encore.
En 83.
Sauf oui. À travers l'annonce du décès de Klaus Nomi.
Oui, après il y a quelques articles qui font état des cas qui se multiplient, etc. Mais ce n'est pas encore une question abordée régulièrement, etc. C'est pas une question, je n'ai pas l'impression.
Pour Fréquence Gay, la radio de la communauté gay à Paris, c'est aussi une année charnière, je crois.
Alors, oui, en fait, c'est en 80. Alors, en 83, il va y avoir véritablement l'attribution des fréquences officielles de la radio libre. Donc, la loi avait été votée après l'arrivée de Mitterrand, là aussi. Et c'est en 83 que la haute autorité, présidée par Michel Cotta, est chargée de distribuer les fréquences. Et au départ, alors, avant, donc les radios commençaient à émettre, mais dans un statut un peu bâtard. Et il y a eu une commission qui s'est mise en place, la commission Holo, je crois. Et en tout cas, à la fin de l'étude, les préconisations font que si Fréquence Gay doit avoir une fréquence officielle, qu'elle soit partagée avec d'autres radios de type communautaire, un peu des politiques marginales, etc., mais qu'il n'y ait pas une fréquence dévolue attribuée totalement à Fréquence Gay. Dès que cette position est connue, Fréquence Gay active ses réseaux et il y a très vite une manifestation qui se met en place, qui voit défiler 6000 personnes dans les rues de Paris en janvier. Et donc au final, la haute autorité de Michel Cotta et le ministère, alors c'était le ministère des télécommunications, je crois, enfin celui de Filiou, est obligé de finalement d'attribuer une fréquence à la radio homosexuelle. Et la fréquence qui va lui être attribuée, le 97.2, elle prend la place en fait de Carbone 14, la radio mythique, qui elle par contre n'a pas passé le cap de l'attribution des fréquences.
Donc 1983, décidément une année charnière, connaît aussi des bouleversements au sein même du magazine, du journal de Guépier.
Alors Guépier, effectivement, va vivre une de ces crises. Donc le Guépier, on rappelle, en fin d'année 82, à partir du mois de décembre, passe à un rythme mensuel. La maquette change, on sort petit à petit du journal militant politique, or qui était au départ édité d'ailleurs sous format papier, on passe plus à un format magazine qui mélange, et pour moi ce sera vraiment la particularité de Guépier, les sujets politiques, les dossiers de fond, mais une partie plus glamour, on va dire, plus magazine, avec petit à petit des photos de mecs à poil au milieu, les petites annonces qui prennent de plus en plus d'ampleur, et des sujets de vie quotidienne et de consommation. Et ça aboutit, donc ça c'était la fin de l'année 82, et du coup en 83, au milieu de l'année 83, Jean Lebitou, qui était quand même le fondateur et on peut dire le créateur de l'idée du Guépier, claque la porte du journal, donc il fait lors de l'assemblée générale annuelle qui a lieu le 9 juillet, il met fin à ses fonctions, il quitte le journal, il y en a quelques-uns qui le suivent, et là, du coup, il part avec beaucoup de rancœur. Et quelques semaines plus tard, à la rentrée, il répondra d'ailleurs aux questions du journal concurrent qui est Samouraï. Alors, pour la petite histoire, ce qui est rigolo, c'est que Samouraï a été créé par Jackie Fougeray après que Jackie Fougeray était quand même poussé dehors par Jean Lebitou. Mais du coup, Jean Lebitou, quand il part du Guépier, va un peu cracher son fiel dans les colonnes de Samouraï en dénonçant la dérive quasiment pornographique, en tout cas très mercantiliste, prise par le journal. Qui, pour moi, là aussi, enfin, c'est les entretiens que j'ai eus avec des acteurs de l'époque, cette dérive-là épousait quand même les besoins des lecteurs, consommateurs, et ça Gérard Vapro qui était le gérant l'a très vite compris qu'il fallait changer de modèle pour passer d'un journal militant à un journal plus pour la communauté et ça épouse d'ailleurs l'histoire, sauf que ça Jean Lebitou l'a pas supporté. Il voulait toujours un journal militant, ça vient aussi de son passé, il était dans les GLH, etc., c'était un acteur militant, il n'a pas supporté de voir que le journal prenait une nouvelle connotation, mais qui était nécessaire à sa survie.
Alors la vie culturelle en 1983, telle qu'elle est évoquée dans Guépier, qu'est-ce que tu pourrais mettre en avant par exemple ?
Je mettrai en avant surtout le grand événement, c'est la sortie de L'Homme blessé, de Chéreau et Hervé Guibert, qui est présenté à Cannes, alors qui aura un César d'ailleurs l'année suivante, et qui provoque un grand malaise à Cannes du fait du sujet, des images traitées, donc ça va avoir un grand retentissement. Après, à un niveau plus au-delà de la culture, de la vie gay, je soulignerai aussi deux choses. C'est les mots à la bouche qui déménagent et qui s'installent rue Sainte-Croix de la Bretonnerie. Avant ça, ils avaient été créés 3 ans plus tôt, la librairie. Donc, c'est une librairie parisienne. C'est la grande librairie LGBT parisienne. Maintenant, il en reste plus que deux. Il y a aussi Violette & Co, mais là, c'est plus lesbien. Et donc les mots à la bouche avaient été créés dans le 18e arrondissement et déménagent rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, donc qui est en plein marais pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et c'est le symbole un peu de l'éclosion du marais avec de plus en plus d'établissements de tous ordres qui s'installent. Et au niveau de la vie gay aussi, c'est intéressant de noter que s'ouvre rue Saint-Honoré cette fois, qui est une rue pas très loin, mais c'est pas le Marais en tant que tel. Donc s'ouvre le club Le Haute Tension, qui sera un des deux grands clubs fondés par David Girard, qui est dans l'explosion de son business dans ces années-là. Il a commencé avant, alors David Girard, il a commencé comme prostitué, avec les sous gagnés, il va ouvrir des saunas, des restaurants, des clubs, il va avoir de la presse avec GI et avec 5 sur 5. Donc il va monter véritablement un empire de la nuit parisienne, on dira. Et voilà, en 83, à la fin de l'année, s'ouvre l'Haute Tension, qui sera le club qui va durer quelques années jusqu'à l'ouverture du Megatown à la fin des années 80.
D'accord. Eh bien, merci Thomas. Et nous nous retrouverons donc pour une prochaine chronique correspondant à l'année 1984.
Ça marche, bientôt.
Understand, you're old enough to learn the makings of a man. Listen to me, baby, it's time to settle down. Am I asking too much for you to stick around? Every boy wants a girl he can trust to the very end. Maybe that's you, won't you stay? But till then, when I see lips begging to be kissed, I can't stop, I can't stop myself. No! Has taken over my one track mind. Believe it or not, you're in my heart all the time. All the girls are saying that you'll end up a fool. For the time being, baby, live by my rules. When I settle down, I want one baby on my mind. Forgive and forget, and I'll make up for all lost time. She's put together fine. She's on my mind. I can't stop. I can't stop myself.
Seule émission LGBT sur Lyon et sa région. Chaque mercredi, de 20h à 21h, sur Radio Pluriel.
Et voilà, c'est dans Close Nomi.
Oui.
Voilà, un des premiers morts, malheureusement, célèbre, hein, triste célébrité de l'épidémie du sida. Ah, on a de la musique, c'est génial. C'est Bambola.
C'est la Bambola.
C'est la Bambola.
Patty Bravo.
De Patty Bravo, qu'on écoutera tout à l'heure. Parce que juste, enfin, pourquoi on va écouter la Bambola? Parce que c'était dans le film Xenia. Xenia, dont le metteur en scène s'appelle
Panos Koutras.
Et qui sera.
Qui est l'invité d'honneur du festival. Voilà.
C'est pour ça qu'on écoutera.
Qui est invité pour une rétrospective et deux cartes blanches à l'Institut Lumière, au Comédia et au Ciné Mourgué.
Voilà. Mais nous aurons l'occasion d'en reparler, oui, puisque tu reviendras spécifiquement pour une émission spéciale Écran Mix avant le début du festival. Mais si tu es là aussi, c'est pour nous parler donc d'actualité cinéma qui concerne notre thématique LGBT. Et donc, il y a une actualité qui concerne directement Écran Mix, puisque vous organisez Écran Mix une projection d'un film s'appelle The Smell of Us. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus, Yvan ?
Oui, donc c'est à l'initiative de Ciné Mourgué à Sainte-Foy-les-Lyons. The Smell of Us, c'est le nouveau film de Larry Clark, que vous connaissez sûrement, réalisateur américain, photographe, qui fait des films depuis 20 ans. Et il fait tout un travail sur le corps adolescent, sur les jeunes en marge de la société, les punks, les skateurs, et son nouveau film, moi je trouve que c'est une splendeur, je trouve que c'est son film testament, son film somme, The Smell of Us, qui raconte l'histoire de quatre jeunes en errance, qui fréquentent le milieu du skate à Paris, ça a été tourné à Paris. Ce film-là aussi a été financé par crowdfunding, il faut quand même le dire, alors que c'est un très très grand réalisateur. Trois garçons et une fille donc qui zonent autour, qui zonent à Paris dans le quartier des skateurs, qui s'appelle le Dôme à Paris, et on suit leur quotidien, c'est sexe, drogue et rock'n'roll et skateboard. C'est un film absolument fascinant, un vrai film sur La manière qu'il a de filmer les corps est absolument impressionnante. Au plus près des corps, on sent la moindre peau, le moindre poil, la moindre sueur. Il y a un rapport quasi érotique avec ces sujets. C'est toujours à la limite de pas de la pédophilie, mais vraiment de l'amour adolescente et aussi de l'inceste, qui est toujours présent dans ses films, et notamment dans ce film-là où elle est vraiment très présente. C'est un film, c'est complètement fascinant, rock'n'roll, et ce qui est très intéressant, c'est qu'à l'initiative du Cinémorgue, avec lequel on est associé, on invite le scénariste, le très jeune scénariste du film, qui s'appelle Scribe, qui a une vingtaine d'années, qui est poète nantais, et puis l'actrice principale du film, Diane Rouxel, qui joue donc dans le film. Le film a eu le Grand Prix à Chéri Chéri. C'est un film dont on a suivi le tournage l'année dernière. Il y avait une web-série sur Arte, sur la plateforme web d'Arte. Ça s'appelait Un été avec les kids de Larry Clark. Et donc on suivait en temps réel le tournage du film, de son premier film filmé en France. C'est un film fascinant, moi, que je trouve un poil moraliste quand même. J'ai l'impression que c'est la vision d'un homme de 70 ans sur la jeunesse d'aujourd'hui. C'est pas un vrai film punk, je trouve que c'est un film quand même très moralisant. Ce qui est très intéressant aussi dans la manière dont c'est filmé, c'est qu'il y a une juxtaposition de regards différents, c'est-à-dire donc il y a le film, mais les jeunes aussi se filment en train de faire l'amour avec leur smartphone, ils communiquent aussi par Skype, il y a énormément de vidéos YouTube, donc il y a une espèce de magma visuel où tout s'enchevêtre, c'est absolument fascinant, et ça, c'est un film qui parle de comment est-ce que la jeunesse d'aujourd'hui, enfin une jeunesse en marge, crée des liens sociaux entre elles, et ces liens sociaux se créent par l'image, par la distanciation aussi. Et donc c'est un film qui parle ouvertement donc d'homosexualité, de désir masculin et puis de prostitution, puisque les personnages donc vont se prostituer. On ne sait pas pourquoi ils le font vraiment, parce que ce sont tous des gosses de riches un peu. Mmh. Mais c'est donc une espèce
parce qu'ils s'ennuient.
Oui, c'est ça. C'est un film sur l'ennui. Toujours chez Larry Clark. Hein. Ça parle toujours de l'ennui. D'ailleurs, il y a une scène absolument éprouvante dans le film où la mère abuse de son fils sexuellement parce que justement elle s'ennuie. Où elle dit on s'emmerde, allez, je vais pas dire ce qu'elle dit, mais c'est vraiment oui un film sur l'ennui, sur l'errance.
C'est pour ça que la mère, c'est l'actrice que tu citais.
C'est Dominique Fraud, la sœur de Catherine Fraud,
d'accord,
qui joue et qui a vraiment un rapport incestueux avec son fils parce qu'elle l'abuse sexuellement dans le film.
Et il y a donc des actrices féminines, donc Dominique Fraud et puis tu
citais... Diane Rouxel. D'accord. Très jeune actrice, ravissante et très talentueuse, qui sera là au Cinémorgue après-demain. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y aura une masterclass du scénariste à 19h, et ensuite une projection suivie d'un débat avec donc Scrib, le scénariste, et Diane Rouxel. C'est un des films les plus forts de l'année. J'ai du mal à en parler. En tout cas, c'est un film extrêmement sensitif. Alors, le film s'appelle The Smell of Us. Qui veut dire nos odeurs, voilà. Donc c'est, le film dépasse le simple cadre de la photographie et de l'image, c'est vraiment un film sensitif dans lequel on sent les odeurs, justement. C'est un film qui est filmé au plus près des corps et on sent vraiment l'odeur adolescente.
C'est un odorama.
Et en fait il parle de son sujet favori qui est justement la fuite de cette époque perdue qui est la jeunesse, quoi. C'est absolument fascinant.
D'accord. Fascinant, mais pas suffisamment subversif.
Oui, je pense. J'ai l'impression d'avoir vu le film d'un homme de 70 ans sur la jeunesse d'aujourd'hui. Mais ça parle aussi d'une sorte de mondialisation aussi de cette désespérance récente, puisque jusqu'à maintenant, il filmait ses histoires aux États-Unis. Et là, on se rend compte qu'à Paris, c'est la même chose, en fait. Hein. Une espèce de mondialisation par les réseaux sociaux, par Skype, par YouTube, de uniformisation, en fait, de cette jeunesse qui ne sait pas où elle va, quoi, qui s'ennuie et qui est complètement uniformisée.
Et... Ouais,
la jeunesse. Et donc, en gros, à chaque génération, il y a ces jeunes qui s'ennuient.
Oui. Oui. Okay. Sauf que là, il y a en plus maintenant une distanciation de plus en plus manifeste, justement, avec tous ces réseaux sociaux qui finalement nous éloignent les uns des autres, j'ai l'impression. En tout cas, c'est du très 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 grand cinéma. C'est pour moi le film somme de Larry Clark.
C'est donc cet événement à Écran Mix. Donc, c'est vendredi soir au cinéma Mourguet.
C'est après-demain à 19h. 19h, masterclass de Scrib, le scénariste. Et ensuite, 20h30, projection du film. C'est 6€ l'entrée.
D'accord.
Franchement. Alors, simplement, je voudrais simplement préciser que le cinéma Mourguet, c'est donc à Sainte-Foy-les-Lyons. C'est à 12 minutes de la gare de Perrache en bus. Et qui nous dépose devant le cinéma. Donc, c'est vraiment à proximité de Lyon.
D'accord.
C'est la première fois qu'Écran Mixte va à Sainte-Foy?
Et oui, mais ce sera pas la dernière fois, puisque on a décidé de travailler souvent avec eux, et notamment dans le cadre du festival Écran Mixte, il y aura une séance de Xenia avec Panos Koutras à Sainte-Foy-les-Lyons.
Xenia, dans lequel se trouve la chanson La Bambola, que nous entendrons tout à l'heure en fin d'émission. Voilà.
La boucle est bouclée.
La boucle est bouclée. Il y a un autre événement cinématographique. Actuellement, c'est un film, enfin un biopic. On parle de biopic, donc ça s'appelle Imitation Game. Et qui relate donc l'existence de Alan Turing.
Alors c'est le numéro un box-office.
Numéro un box-office. Alors un biopic, justement, on entend beaucoup parler des biopics. C'est un documentaire de fiction en fait. Comment on peut qualifier justement le biopic ?
C'est une reconstitution.
C'est une biographie.
Une biographie filmée.
Une biographie filmée.
Ouais. Oui, une reconstitution.
Tu peux mélanger des images de documents réels ?
Non. Donc, biopic, c'est bio picture. Donc c'est un film qui raconte une histoire d'après une histoire vraie.
Voilà.
C'est ça, un biopic.
Et donc en l'occurrence, il s'agit de l'histoire d'Alan Turing.
Alan Turing, donc j'ignorais l'existence et j'ai découvert l'histoire.
Mais pas nous, on en a souvent parlé.
Eh oui.
C'est notre héros. Il nous faut des héros, on en manque. Et ben voilà.
Justement, Didier Bitoni avait fait un très chouette article de le mois dernier dans Hétéroclite où il disait que justement on avait besoin de héros et que ça faisait du bien de voir des héros gays au cinéma. Puisque le film ne cache absolument pas son côté gay, mais je voudrais en parler parce que pour moi c'est exactement tout ce qu'il faut pas faire pour la représentation homosexuelle.
D'accord.
Alors Alan Turing, qui c'est ? Donc c'était un mathématicien anglais qui a été embauché par le gouvernement britannique pendant la Seconde Guerre mondiale pour déchiffrer les messages nazis d'attaque qui étaient codés. Il faut savoir que toutes les attaques, qu'elles soient terrestres, qu'elles soient sous-marines...
Extraterrestres...
tous ces messages étaient codés.
Ouais, c'est voilà. Le code Enigma de l'armée allemande.
Voilà, c'est ça.
Qui était transmis par voie radiophonique.
Et donc, tous les messages étaient interceptés, mais ils étaient pas, on ne pouvait pas les décrypter. Et dans le film, ils expliquent que chaque message, en fait, si on passait tout notre temps dessus, il faudrait 20 millions d'années... pour décrypter chaque message. Voilà. Or, il arrivait des dizaines de messages par jour, quoi. Et le code changeait toutes les 24 heures, en plus. Donc, c'était... voilà. Donc, ils font appel donc, à ce mathématicien, qui était visiblement reconnu. Et que va faire Alan Turing ? Il va créer le premier ordinateur, en fait, de l'histoire. Il va créer une espèce de machine géante, supercalculateur, qui, lui, donc, va déchiffrer et... faire casser le code Enigma. On estime que grâce à lui, la guerre a été raccourcie de 2 années et que 14 millions de vies ont été épargnées grâce à lui.
Et il est considéré comme un des pères fondateurs de la science informatique.
Ben oui, et apparemment, il a écrit un article en 36 ou en 34 qui est très connu, qui s'appelle justement Imitation Game, dans lequel il parle de la première intelligence artificielle. Donc, il y a un côté... Donc, le début du film est absolument passionnant, parce qu'on est vraiment avec lui, on est vraiment avec son équipe, et on voit comment est-ce qu'il fabrique la machine, et toute la logique un peu de tous les messages codés, donc c'est absolument passionnant. Et puis, en flashback, on comprend donc que ce personnage est homosexuel, donc en flashback... on le voit dans sa faculté avoir une espèce de romance quand il a quoi, 15-16 ans, avec un autre garçon. Ce garçon va mourir et il va donner le nom de ce garçon, Christopher. C'est comme ça qu'il va nommer sa machine. Voilà. Je sais pas si dans la réalité c'était vraiment ça, mais en tout cas dans le film, voilà. Alors le traitement d'homosexualité, parce que c'est ça qui nous intéresse.
Oui, c'est ça
comment
qui nous
dire
intéresse.
Ce qui est intéressant, alors c'est du film anglais, gros calibre, hein, c'est du gros biopic, les violons qu'on passe à la couche, double couche, triple couche, c'est du gros biopic, c'est des gros acteurs.
Il n'y a pas eu de crowdfunding cette fois.
Ah non, non, là non. Acteur absolument formidable, l'acteur Benedict Cumberbatch, Sherlock Holmes, formidable. Par contre, le personnage, ils ont traité le personnage vraiment comme Sherlock Holmes, c'est-à-dire un personnage... presque antipathique, misanthrope, très solitaire et un peu cynique. Je ne sais pas si le vrai Alan Turing était comme ça. Je pense qu'ils ont plus joué sur le côté Sherlock Holmes. Par contre, donc, ce qui est bien, c'est qu'il ne cache absolument pas l'homosexualité du personnage. Mmh. Ça, c'est formidable sur un film comme ça, un film grand public. Par contre, la manière dont il traite, c'est exactement tout ce qu'il ne faut pas faire au cinéma. Alors, le personnage est homosexuel, mais pendant 2 heures, il a une romance avec une fille. Alors, moi, déjà, je ne comprends pas. Déjà, dans le film, donc, ils vont introduire un personnage.
Ouvre ton esprit, Yvan. C'est des choses qui arrivent.
Non, mais scénaristique. Mais moi-même, ça m'est arrivé, donc je sais pas comment. Sauf que là, scénaristiquement, ils font venir donc un personnage féminin qui visiblement n'a rien à faire dans l'histoire, et donc tout le long du film, ils vont avoir une espèce de romance. À la fin, il va même lui demander de se fiancer avec lui. Ils vont même prévoir de se marier. Donc en fait, le film traite du sujet, mais sans le sujet, parce que vous savez que pour qu'un film marche, il faut qu'il y ait une romance pour un film grand public. Et donc ils ont mis cette romance-là. Moi, j'aurais préféré qu'il y ait une vraie romance. Avec un autre homme.
Certes, oui.
Et ça, c'est pas encore le cas pour ces films gros calibre. Alors, la fin d'Alan Turing est quand même très très triste, puisque en fait, il est mort à l'âge de 41 ans, il s'est suicidé, parce qu'en fait, donc, il a été condamné pour homosexualité, en fait, pour abus de mauvaise humeur.
Par la loi anglaise, voilà. Qui condamnait l'homosexualité.
Donc, en fait, il a été condamné à subir un traitement chimique, une castration chimique.
Mmh. Il avait le choix soit d'aller en prison, soit subir la castration chimique.
Absolument, voilà. Qui est une castration chimique, il a fait beaucoup grossir, lui qui était très, qui faisait beaucoup de courses à pied, beaucoup de sport, on le voit très bien dans le film. Il a fait une dépression et donc il s'est suicidé à 41 ans. Et il ne pouvait pas bénéficier, on va dire, de ce privilège d'être un héros de guerre, puisque le projet Enigma était un projet classé top secret, qui a été caché pendant 50 ans. Mmh. Donc en fait, il ne pouvait même pas échapper à la prison en étant héros de guerre. Donc il a vraiment une fin de vie très triste et très 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 solitaire.
C'est ignoble cette histoire.
C'est
en fait.
Très triste.
Non mais quand on creuse vraiment, c'est immonde.
Ah ben c'est
dramatique, c'est un martyr, c'est une tragédie,
c'est un martyr de l'homosexualité. Ah. Alors il faut aller voir le film parce que d'abord vous allez passer un très bon moment. On est vraiment, il y a vraiment beaucoup de suspense, on a vraiment envie qu'ils arrivent. L'interaction entre les personnages est très intéressante, mis à part ce personnage féminin qui est très bien joué, ceci dit, mais qui n'apporte rien à l'histoire.
Mais ce personnage féminin a existé dans la vie de Turing.
Je suis pas sûr.
Peut-être une couverture aussi, parce qu'Alan Turing n'était pas, je veux dire, dans le contexte anglais de l'époque, oui. La loi étant très dur, très pénalisante, donc du coup il n'était pas ouvertement homosexuel. En fait, c'est suite à son homosexualité a été révélée suite à un dépôt de plainte que lui a fait à la police parce que un de ses amants de passage avait cambriolé son appartement. Mmh. Et de fil en aiguille, la police est remontée parce qu'elle d'accusateur il est devenu accusé, comme ça se passe souvent. Et mais que faisait ce garçon là dans la maison? Ouais. Et puis finalement ils ont réussi à reconstituer l'histoire. Et c'est là que perversion sexuelle, parce qu'on a assimilé l'homosexualité à une perversion sexuelle qui était condamnée par la loi. C'est la même loi qui a condamné Oscar Wilde,
oui,
d'ailleurs.
Ce que j'allais dire,
la même
ouais.
loi britannique qui a envoyé Oscar Wilde au bagne.
Et cette histoire de cambriolage, c'est le début du film, justement. Le film D'accord. commence par le cambriolage chez Alan Turing. Et puis, tout le long du film, on n'arrête pas de lui dire qu'il est quelqu'un d'à part. On l'a mis sur un projet à part parce que justement il est quelqu'un d'à part. Ouais, on n'arrête pas de marteler tout le long du film qu'il est quelqu'un d'à part. Quoi.
Ouais.
Au jour d'aujourd'hui, ça fait un peu bizarre de voir ça.
Il l'était quand même par son génie, je dirais. Par son génie de mathématicien, puisqu'il a effectivement écrit des ouvrages qui font référence, même encore maintenant, dans les domaines de l'informatique et des mathématiques. Des choses très compliquées. J'ai essayé de comprendre. Déjà en maths, j'étais nul. Donc, alors là, ça a été l'achèvement le plus total. Je ne comprends rien. Mais enfin, en tout cas, de l'avis des experts, c'est un très, très grand spécialiste. Et effectivement, c'est quelqu'un qui a permis aussi la fin de la guerre. Quoi. C'est un des acteurs qui ont permis à la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie.
Il y a quelque chose que j'ignorais et qui c'est la deuxième partie du film. En fait, une fois qu'ils ont cassé le code Enigma, donc ils étaient au courant de toutes les attaques qu'il allait avoir, ouais. Mais ils les ont pas toutes empêchées justement. Donc après, il s'est mis à faire des statistiques sur lesquelles il fallait quelles attaques il fallait empêcher pour pas que les nazis se doute que le code avait été...
Bien sûr.
Avait
été,
oh, voilà. Punaise, dis donc.
Donc après, en tant que mathématicien, il a fait donc des statistiques sur le nombre de morts tolérables. Enfin, c'est sa deuxième partie du film, c'est assez intéressant. Mais voilà donc un grand film qui tire les larmes mondiales, dans lequel c'est un vraiment un héros de guerre qui est ouvertement homosexuel, pour une fois on en parle, et tout au long du film on nous parle d'une romance avec une femme. Et c'est vraiment ce côté ouais. hypocrite là qui peut vraiment agacer
aujourd'hui. Par contre, le procès en accusation, je dirais, d'homosexualité est retranscrit dans le biopic.
Non, pas le procès, non.
C'est fort dommage.
À la fin, voilà. À la fin, il est condamné et il fait une dépression, mais non.
Et est-ce que on va pas tout dévoiler, mais tout le monde connaît, tout le monde, tu sais, tu l'as dit d'ailleurs, tu l'as rappelé, qu'il s'est suicidé, donc. Et il y a une légende urbaine, qu'on avait évoqué déjà le mois dernier, justement, avec Romain, au début du mois dernier, lorsque Romain était ici. Il aurait croqué une pomme dans laquelle il aurait injecté du cyanure.
Ah, c'est peut-être une. On en parle dans le film, on parle de cyanure dans le
voilà.
film.
Voilà. Et en fait, une légende urbaine, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, voudrait que donc, le fondateur de Apple se soit référé à la mort donc, de Alan Turing, la pomme dans laquelle marque le morceau, hein, c'est la pomme qu'a croqué Alan Turing. Voilà.
D'accord. Alors justement, dans le film, il y a une référence à la pomme. À un moment donné, Alan Turing offre à ses collègues des pommes pour se faire apprécier. Et puis, effectivement, il y a une histoire de cyanure à la fin du film.
Ouais.
Mais j'ignorais cette anecdote sur Apple.
Alors, on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Hein, mais bon, Steve Jobs.
Moi, je trouve que c'est pas mal comme.
Ouais, c'est joli.
Oui, c'est une jolie légende. Même si on a envie de croire que c'est vrai.
Moi, j'aime bien. Moi, je choisis celle-ci, moi.
On opte pour que c'est vrai. En plus, c'est pas une légende, c'est vrai.
En tout cas, c'est un rôle à Oscar. Il joue très, très bien. Il est absolument fascinant, Benedict Cumberbatch. Très crédible en homosexuel, je ne sais pas si, mais en tout cas.
Bon, en tout cas, tu nous conseilles d'aller voir Imitation Game.
Oui, allez voir, amener le mouchoir.
Et ça, c'est sorti dans les salles de cinéma. Oh, ça sort quand aujourd'hui, non ?
C'est sorti mercredi dernier, numéro 1 au box-office. Et puis, allez voir encore donc, The Smell of Us, qui est actuellement au Comédia. Mm. Toutes les séances sont pleines, le film a beaucoup de succès. Et après-demain, pour rencontrer avec nous le scénariste et l'actrice du film.
Alors, pour en finir avec Alan Turing, il y a une chose que je n'ai pas dite, que tu n'as pas dite non plus, c'est qu'il a été réhabilité en 2013 par Sa Majesté la Reine d'Angleterre, Elisabeth II, sur proposition du secrétariat d'État à la justice. Il a été réhabilité post-mortem, donc 60 ans après, c'est ça, hein, 60 ans après, bon, voilà. C'est bien. Hein,
ça lui fait une belle jambe. Voilà. Pauvre vieux.
Et il a été reconnu comme héros national. Et une statue érigée.
Les statues.
À Manchester. Voilà.
C'est le minimum.
Sa ville natale ou la ville où il a vécu une partie de sa vie. Voilà. Donc le festival Écran Mix, on va rappeler que c'est le mois prochain. On ne le rappellera jamais assez.
Le 4 mars. On est le 4 février.
Il y a un très beau catalogue qui va sortir. Mmh. Qui sera disponible à partir de quand?
Alors le catalogue sera disponible le 13 février, c'est-à-dire pas ce vendredi-là, l'autre.
D'accord.
Et on organise une petite fête au Live Station DIY, qui est notre nouveau partenaire pour les 5 ans du festival.
We love them. Aisément.
Ah oui.
Qui est un bar qui fait énormément de choses, qui est extrêmement convivial.
Ouais.
C'est un espèce de bar couteau suisse, ils sont tous très sympas. Et ça correspond bien à l'esprit du festival. Et comme c'est pas loin du Comédia, on s'est dit, ça sera le village du festival. Et donc le 13 février, venez à 19h, il y aura à boire et à manger. Et vous repartirez avec votre catalogue et des places de cinéma qu'on fera gagner.
D'accord. Formidable. Et puis de toute façon, tu reviendras nous voir avant le festival.
Ah bah oui.
Hein,
oui.
Pour nous parler de tout ça. Donc oui, vas-y.
Moi, ça me met en joie ce partenariat écran mixte Live Station.
Bah oui,
mais juste à le dire.
Surtout qu'on les aime bien.
Eh ben oui.
On les a eus ici.
Mais c'est le même esprit. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un esprit d'ouverture.
C'est ce que j'allais dire.
C'est LGBT, mais pas que.
Voilà.
Comme hétéroclite, comme nous.
C'est très sympa. C'est très pro en même temps. C'est une idée du partage et de la solidarité et de l'ouverture d'esprit.
Oui.
Voilà.
Et c'est friendly.
Voilà.
Et elles font de très bonnes bouffes à midi dans des box.
Oui.
Les box du live. Et c'est tellement bon qu'on fera manger tous nos invités là-bas. Donc.
Ah bah alors, que demande le peuple? Tous les renseignements, de toute façon, sont remis sur la page Facebook de l'émission Pluriel Gay.
Simplement dire, une petite pub. Donc cette année, le festival se passera principalement au Comédia. On aura la grande salle. Donc c'est pour ça que je parlais de consécration tout à l'heure. Toutes les places sont déjà en pré-vente. Ça commence à défiler. Donc il faut aller sur notre site pour déjà faire votre programme et préacheter vos places. Sachez que la carte du Comédia est acceptée, ça fait 5,70€ la place.
Très bien.
Ce qui est
très bien. Bon. Oui.
Tu nous rappelleras tout ça avant l'émission spéciale Écran Mix que nous comptons sur toi faire avec nous à la fin du mois. Voilà, bon, du coup, on va se séparer. Donc, on va mettre, comme on le disait, la bambola. Alors, parle-nous de Patty Bravo, vite fait. Patty Bravo, c'est une vieille chanteuse.
Non, c'est une diva italienne. C'était une grande amie de Dalida.
Elle a au moins 98 ans.
Non. Elle est plâtrée, c'est sûr.
Oui, on la voit dans Xenia.
Elle fait une apparition à la fin.
Elle est encore en vie?
Oui, c'est une chanteuse qui n'a jamais cessé de travailler depuis les années 60.
Très
bien. A une voix extraordinaire. C'est une grande amie de Dalida. Et quand Dalida est morte, elle a fait beaucoup connaître Dalida en Italie. Elle a repris énormément Dalida.
Mmh. Eh bien, on va écouter donc la bambola de Patty Bravo, qui est dans le film de Xenia. Donc.
Bien sûr.
C'est parti.
Pluriel gay. Hop. Pluriel gay.
Tu mi fai girare, tu mi fai girare come fossi una bambola. E poi mi butti giù come fossi una bambola. Non ti accorgi quando piango. No ragazzo no, no ragazzo no, del mio amore non riderei. Non ci gioco più, quando giochi tu, sai far male da piangere. Da stasera la mia vita nelle mani di un ragazzo no. Non la metterò più. No ragazzo no, tu non mi metterai tra le dieci bambole che non ti piacciono più. Oh no, oh no. Tu mi fai girare, tu mi fai girare come fossi una bambola. Poi mi butti giù come fossi una bambola. Non ti accorgi quando piango, quando sarà triste e stanca. Pensi solo. Gira, mi fai girare.